deux invités avec nous ce soir pour dresser le bilan du mois de mai sur les marchés. Alexandre Baradez nous accompagne, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Bertrand Lamiel. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir messieurs.
Vous êtes directeur général de Ports en Part Gestion. Oui, petit commentaire un peu global sur ce mois de mai. Je le disais, alors qu'a été un mois de rattrapage après le creux du mois d'avril, qui se termine avec, j'allais dire, des sorts un peu variés en fonction des indices. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, on sent quand même une petite glissade avec des marchés qui patinent un peu. Et puis, ici et là, des petits accidents. Hein. C'était Salesforce hier, c'est Dell aujourd'hui. Voilà, on voit quand même sur des grosses capitalisations, Salesforce en tout cas, des chocs encore importants à la suite des dernières publications de résultats.
Oui, sur le secteur de la tech notamment, enfin sur le secteur des logiciels, où on s'aperçoit en fait que le marché attendait probablement dans les publications que ces sociétés annoncent plus rapidement que ce qu'elles l'ont fait, que l'intelligence artificielle incorporée dans leur business model leur permettait de mettre un nouveau moteur de croissance, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, du coup, il y a eu des sanctions assez sanglantes, puisqu'on était sur du moins 15, moins 20 sur les séances. Donc, voilà. Maintenant, il faut voir que c'est pas complètement une surprise. Ça faisait 2 mois que ces titres-là étaient en déshérence et en fait étaient en train de sous-performer contre le marché. Donc quand on a comme ça des titres qui pendant 2 mois, alors que le secteur globalement se porte bien, ouais, sont en train de laguer, il y a un premier avertissement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas compris quelque chose, d'autres l'ont compris.
Ouais. Donc il faut écouter exactement.
Ça. Il faut écouter ça, donc il faut réajuster ses positions. Et donc nous on était sortis avant parce qu'on se disait bien quelque chose ne va pas. Et quand on a des sociétés comme ça qui sont en sous-performance relative, qui passent sous une 200 relative, ouais, globalement, il y a un adage qui dit, voilà, il ne se passe rien de bon sous la 200.
Ah donc, je ne connaissais pas celui-là, la moyenne mobile 200 jours. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ce secteur des logiciels, il était quand même très, très probable. Enfin, il l'est toujours, bien sûr. Mais beaucoup imaginaient qu'après le côté hard tech, on joue Nvidia, on joue les GPU et on continue de les jouer. Hein. Nvidia reste encore sur des performances stellaires. On pourra valider ça ensemble. Mais le coup d'après, c'était les logiciels. Enfin, ça faisait partie justement de cette idée de percolation, ruissellement. Et que le secteur des logiciels, naturellement, était le secteur dans la tech qui allait pouvoir profiter assez immédiatement de l'IA.
Mais c'est ce qui va probablement se passer.
Oui.
Mais voilà, en bourse, on est quand même dans un concours de beauté. Donc, à un moment donné, on s'est dit, la tech globalement marche bien. Les prochaines à en profiter seront les sociétés logicielles. Donc, elles ont été poussées en avant. Et puis après, on se heurte au mur de la réalité. Ben non, finalement, ça reste très bien. Elles ne vont pas faire faillite demain. Mais on a mis trop d'attentes sur le sujet. Donc, il y a de l'argent qui est repris pour aller se remettre ailleurs. Parce que vous parliez des gadins, mais on avait déjà parlé la dernière fois, je crois, de Deckers.
Oui.
Donc, société qui fait les bottes UGG, les pantoufles UGG et les baskets Hoka. Ils ont encore publié très bon et c'est monté de 10.
Bien sûr. Là, Abercrombie. J'ai vu Abercrombie pareil, plus haut historique.
Là, aujourd'hui,
c'est Gap.
Voilà, ouais. Pauline Gratel parlait de ouais. Gap à plus 9. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est pas sous les projecteurs, mais ouais, y a des choses qui se passent et qui vont très bien sur d'autres secteurs. C'est un peu surprenant, mais on se retrouve avec des valeurs qui, objectivement, en termes de performance, sont au coude à coude avec les techs.
Hein. Bah, oui, c'est ça. Oui. Il faut pouvoir regarder un peu en dehors de la tech. Mais d'ailleurs, c'est un peu la question à la fin de ce mois de mai. Est-ce que ça paye, notamment sur le marché américain, de regarder ailleurs, en dehors de la tech et en dehors de seulement Nvidia, Bertrand ?
Alors, il faut du Nvidia. Ça, voilà, si la question était celle-là, oui, il en faut, nous, on en a.
Et si on en a, il ne faut pas le lâcher maintenant.
Non, il faut résister, ouais, parce que pour l'instant, il n'y a pas de signaux de faiblesse. Là, on rentre dans des... Voilà, il y a des indicateurs de tension qui nous indiquent que, voilà, bon, comme toujours, quand ça a tiré, il faut que ça digère un petit peu, mais on a quand même validé sur les résultats que c'était bon. Il y avait pas mal de tension avant les résultats, parce que forcément, on en attendait tellement, mais bon, ils ont explosé tous les compteurs, et donc derrière, c'était validé en bourse. Voilà, et à côté de ça, oui, mais on est dans des logiques de stock picking avec... là dernièrement c'est dans les utilities, il y a 2 ou 3 valeurs qui ont fait des bons énormissimes, ouais, et quand je vous dis des bons énormissimes, on est en train de parler de 40% sur le mois.
J'ai vu Nextera dans le solaire, Nextera, First Solar aussi se réveille, etc.
Il y a Vistra, ouais, aussi, enfin bon, ouais, dans le secteur des utilities, ouais. C'est pas là où d'habitude on trouve les
pas le plus fun.
Les
c'est pas le plus fun, oui.
Donc voilà, mais.
Non, mais ma question étant, est-ce que il y a quand même une participation à la hausse qui s'est. Et en fait, c'est ça. Non, au-delà des histoires spécifiques qu'on peut citer, il y en a plein, il y a quand même toujours l'idée d'une concentration toujours plus forte du S&P 500 autour d'une valeur désormais qui s'appelle
Nvidia. Mars-avril, une augmentation de la participation, on était monté du côté des 45%, c'est-à-dire que 45% des titres de la cote américaine étaient bien positionnés globalement au-dessus d'une moyenne mobile de 100, pour faire très simple. Voilà. Là, on est redescendu à 35 ou 37%.
D'accord.
Alors que concomitamment, en Europe...
Il y a le phénomène inverse.
Ah oui. On atteint les 55%. Sur les mids, on atteint les 55%. Et sur les larges, on doit être à 60%. Donc là, en Europe, c'est plus le LVMH et le luxe qui tirent. Donc voilà, il y a une participation beaucoup plus large. Donc qui touche un peu tous les secteurs. Après, sur les secteurs, on reste... tech, financière, industrielle. Sur le reste, on ne peut pas acheter un tracker d'un autre secteur, il faut aller chercher des idées individuelles. Par contre, sur les trois-là, oui, il y a un mouvement, on va dire, d'ensemble.
D'accord, mais ça veut dire que le marché européen est un vrai marché pour les stock pickers aujourd'hui, que ça reste encore compliqué sur ce marché américain, si on a comme référence l'indice S&P 500 ou autre.
Nous, c'est la conclusion du mois, là, quand je redescends les chiffres, c'est de se dire stock picking en Europe et indiciel aux États-Unis. En termes de paire, franchement, un indice américain, un SPI ou un Nasdaq reconverti en euros, ça fait le job et vous êtes dans la course versus le stock 50. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de signe de faiblesse, voire il y a un peu le mois dernier, on se disait, tiens, ça commence à être compliqué. Non, là, ça reprend la course. Donc, il n'y a pas un gap énorme, mais globalement, ça suit. Par contre, probablement plus facile d'y aller que d'un point de vue...
Aux États-Unis, c'est vrai qu'on avait parlé déjà aussi avec vous du S&P 500 Equal Weighted, équipondéré. Si on fait le rapport entre le S&P 500 Equal Weighted et le S&P 500, le ratio s'est effondré. C'est-à-dire que la sous-performance du S&P 500 Equal Weighted est à des niveaux historiques, je crois, qu'on n'a pas vu depuis 2008-2009 par rapport au S&P 500 aujourd'hui.
Oui, et c'était la question du mois dernier, justement.
Et donc, il y avait une petite touche de...
aux États-Unis, par contre, succès en Europe. Là, pour le coup, le CAC équipondéré reprend l'avance sur
très
le CAC.
Intéressant.
Donc traduit bien
très
que
intéressant.
C'est les petites pondérations du CAC qui marchent bien versus les grosses.
Qu'est-ce que ça nous dit de la situation ? Moi, j'aime bien cette image, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devient un peu dangereux sur le marché américain, tandis qu'en Europe, la base s'élargit un petit peu, Alexandre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi en tête dans l'analyse ?
On pourrait déjà commencer par le marché européen, effectivement, sur le propos de Bertrand. Le dernier record que le CAC avait fait avant cette correction, donc il y a 2-3 semaines à peu près, il s'était fait sans le concours du luxe. Il y avait déjà des valeurs du luxe qui étaient sous leur sommet historique. Même les Hermès, peu en dessous, mais qui était quand même un peu en dessous, puis LVMH qui a déjà lâché, puis Kering, n'en parlons pas. Mais le record s'est fait effectivement sur cet aspect de diversification. C'est-à-dire qu'on dit souvent ça ne dépend que du luxe, c'est pas vrai. La preuve en est que les industriels, les values pures ont participé, les banques ont participé.
Les financières, toujours.
Voilà. Exactement. Et donc ça, c'est plutôt rassurant et ça le reste. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des corrections qui deviennent assez sérieuses maintenant sur le secteur du luxe. Et justement, ce serait peut-être le moment de commencer à rentrer un peu, mais c'est là qu'on voit que certains thèmes un peu globaux sont venus réinfluencer. Les gros indices, effectivement, le résultat, ça compte comme toujours, mais le thème, par exemple, des tensions commerciales Europe-Chine qui ressurgissent un petit peu, on voit que l'Europe avance très prudemment avant d'annoncer quoi que ce soit par rapport aux taxes sur les panneaux véhicules chinois, alors que les États-Unis sont les franco. L'Europe hésite parce qu'on craint tous des mesures de rétorsion, et je pense que ça compte en partie dans le moment un peu adverse qu'on a eu ces dernières semaines sur le luxe, au-delà des résultats un peu réguliers aussi.
Des valeurs. Il y a plusieurs vents de face, et il y a celui-là aussi, quoi.
C'est ça, et puis il n'y a pas de monothème sur le luxe en Chine. Ça, même des boîtes comme Ferrari, c'est moins 20% au T1 sur la Chine, rattrapé heureusement sur les autres zones, mais même l'ultra-luxe automobile a quand même souffert, là où l'ultra-luxe Hermès n'a pas souffert en Chine. Donc les investisseurs, je pense, se disent, bon, mais est-ce que l'ultra-luxe résiste quand même en Chine, même si moi je pense que la Chine, il faut continuer à y aller, que les signaux s'améliorent. Mais ça fait partie des thèmes qui ont purgé un peu le marché, et le thème auto aussi, on a vu que le secteur auto européen a corrigé
et rendu énormément.
Voilà, et je pense qu'on est des points d'entrée, si on se pose la question, faut-il du coup fuir ça ou rentrer maintenant, je trouve que, notamment sur les valeurs type LVMH ou autres, on commence à se rapprocher de points qui deviennent potentiellement intéressants, parce que LVMH, c'est une espèce de gros range, en fait, depuis maintenant quelques temps, et on commence à se rapprocher des gros gaps un peu sous 700, il faut se méfier un peu, mais sinon, c'est des zones, on est dans le tiers inférieur du gap, du range, donc ça commence à devenir un peu intéressant.
C'est pas souvent qu'on a des points d'entrée sur ces valeurs-là, quand même.
Mais non, mais nous, on se retrouve réticents.
C'est ça le problème,
On s'est pris des volets de bois vers là-dessus, quand on était remonté, pas le premier sommet à 900 et quelques avant 2022, mais quand on était remonté sur la réouverture chinoise ou autre à 800 et quelques, on s'est attention, les signaux à ce moment-là de la Chine n'étaient pas encore ceux qu'on devait avoir pour le luxe. Donc là, je trouve que désormais, à ces prix-là, et vu que la Chine, maintenant, a fait de la relance plusieurs sur l'immobilier, pour la demande intérieure, des gros emprunts d'ici novembre ou autre, je trouve que désormais, il y a plus de critères, et en plus, les valeurs sont moins chères, pour revenir maintenant, pour jouer le rallye suivant sur ces valeurs-là. Voilà, ça, c'est le premier point. L'autre point, après, sur les États-Unis, le thème macro, là aussi, c'est un peu réinvité, parce que... qu'est-ce qui a fait, à quel moment les indices type Nasdaq ou S&P ont commencé à relâcher un petit peu? C'est moins sur des questions de résultats que des questions de... C'est le fameux PMI service qui a un petit peu... moi je ne sais pas comment l'interpréter, mais disons que le momentum qu'on avait sur la data macro US depuis début avril, c'était des stats un peu en dessous des attentes assez régulièrement. Pas dramatiquement, les estimations de PIB sont toujours à 3% et quelques, mais il y avait un peu moins de bonnes surprises sur l'économie américaine. Donc on disait, le marché aimait bien ça, c'est parfait, l'économie commence tranquillement à refroidir, on voit des signaux sur la consommation, des ventes de détail un peu moins bonnes, production un peu moins bonne, etc. Un ISM service contracté,
bien sûr.
On s'est dit, ça y est, les services se contractent un peu, c'est parfait, donc les taux ont commencé à se détendre. Et le marché marquait record sur record. Et puis le PMI service est arrivé. Ouais. On rappelle un PMI service. Donc, il mesure les entreprises qui sont plus domestiques sur le segment américain. ISM, c'est plus large. C'est des très grosses boîtes. Et les enquêtes peuvent aussi porter sur leur activité à l'étranger. Donc là, PMI service, c'est du local, entre guillemets. C'est du sol américain, diversifié, grande, petite, moyenne. Et on sonde plusieurs personnes dans l'entreprise, pas que les directeurs d'achat. Donc, c'est censé représenter plus réellement, finalement, ce qui se passe dans les services aux États-Unis. Donc, alors, je disais tout à l'heure que je mets quand même un petit point d'interrogation là-dessus, parce que je me souviens que l'ISM Service, il y a quelques mois, il était à 56. D'un mois à l'autre, il est tombé à 50, 51 et rebondit dans la foulée à 56. Donc, je me demande si on n'aura pas la même chose dans l'autre sens. En gros, si le vrai tempo, ce n'est pas plus proche de 50 actuellement, une espèce de faux signal à 54.
Oui, parce qu'à côté du PMI Service, il y a quand même, dites quand même, une gamme de données qui donne l'idée, au moins, alors les banquiers centraux américains, Powell, ne disent pas d'un ralentissement, ils parlent de rééquilibrage, que ce soit sur l'emploi, même sur des données d'activité. Là, je voyais le PMI de Chicago, je crois. Alors, c'est Chicago, etc. Au plus bas depuis 4 ans, etc. Il y a quand même des données qui pointent vers l'idée de ce soft landing américain.
Même aujourd'hui, avec les chiffres d'inflation PCE, alors ça, c'est stagnant.
Mais le marché reste très sensible. Parce que c'est une donnée comme le PMI service. Je vais pas dire que c'est pas une donnée qui est pas regardée, mais c'est quand même pas la donnée la plus regardée du monde financier et économique. Mais une donnée peut tout de suite suffire à raviver un peu la crainte.
Et puis, comme le marché est hyper data dépendant, en fait, Powell lui-même a dit, enfin, je ne sais pas. Donc, s'il ne sait pas nous dire, le marché regarde ce que la Fed regarde, les datas. Et donc, on le voit bien, toutes les datas, que ce soit ADP, JOLTS, sur l'emploi ou n'importe quel indice de prix ou autre, tout de suite, le marché est réactif et essaie de comprendre l'ensemble. Et cet ensemble, je l'ai vu un peu ralentir, mais il y a quand même eu des minutes de la Fed assez hawkish, plus hawkish que le discours de Powell, ce fameux PMI, deux, trois discours de speakers qui estiment qu'il ne fallait pas ralentir le bilan tout de suite, etc. Donc, ça a suffi pour que le 10 ans américain passe de 4,30 à 4,60. Et c'est ça, en fait, ce dernier moment qui a fait que les années sont un peu lâchées. Voilà, c'est pas dramatique.
C'est au-delà de 4,50 que ça a commencé à turbuler un peu sur les marchés.
Dernier petit commentaire, et après je m'arrête là-dessus.
Bien sûr, non.
C'est qu'on a le sentiment, si vous voulez, quand on regarde les stats aujourd'hui, qui peut être un petit peu représentatif de ça, c'est que c'est le troisième mois consécutif de l'inflation PCE en données annuelles à 3,8, pardon.
2,8,
pardon. C'est une donnée importante. Et on sent bien cette espèce de plancher en dessous duquel on n'arrive pas à passer. Sauf que face à ça, on le disait, on voit quand même un bloc macro qui a un peu ralentissement. Et du coup, la question, je pense qu'on se pose tous, que les marchés se posent un peu, c'est jusqu'où ça va devoir ralentir, même si on est qu'au début peut-être de ça, jusqu'où ça va devoir aller pour caler l'inflation vers les 2% et avoir la certitude que la Fed baisse le taux. Et c'est là qu'on a un effet un peu vent contraire pour le marché, c'est-à-dire qu'on sent que la macro, ça glisse un peu, mais que l'inflation ne fait pas les progrès qu'il faudrait pour que les speakers de la Fed et que Powell lui-même puissent vraiment ouvrir juillet ou septembre pour les baisses de taux.
Bon, on va avoir une mise à jour de tout ça en matière de projection économique de la part des banques centrales à l'occasion des prochaines réunions. On attend quand même cette baisse de taux du 6 juin pour la Banque Centrale Européenne. Je crois que les données d'inflation aujourd'hui en zone euro, après les données de salaire, ont fermer la porte peut-être définitivement pour une baisse consécutive après celle de juin pour le mois de juillet. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura septembre et qu'il y aura décembre également. Ça reste plus ou moins anticipé par le marché aujourd'hui, côté BCE en tout cas.
Moi je pense qu'effectivement les stats du jour ne remettent pas en cause la baisse, ou alors ce serait une erreur de communication phénoménale de la BCE. Il y aurait surprise s'il n'y avait pas baisse de taux, effectivement. Par contre, ce sera probablement, et c'est l'avis de plusieurs observateurs, une baisse un peu au quiche, c'est-à-dire que le message accompagnant ça, c'est ce que vous disiez, on rentre pas dans un cycle, il fera des progrès supplémentaires. réglementaire, on reste restrictif malgré une baisse de taux. Voilà, c'est le genre de discours qu'on aura probablement jeudi, jeudi prochain.
Bon, après, il y a deux camps qui s'opposent, hein, et notamment alors, les Colombes, Villeroy de Gallo, Panetta aujourd'hui qui le rappelait. En matière de tactique de baisse de taux, le camp des Colombes plaide plutôt pour un démarrage, entre guillemets, le plus rapide possible, pour se donner le temps d'y aller progressivement, essayer de contenir la volatilité macroéconomique, parce que sinon, l'autre option, comme le rappelle Panetta aujourd'hui, c'est de partir le plus tard possible, avec le risque d'être obligé d'y aller à un moment très vite, très fort, et là, on crée de la volatilité économique et de la volatilité de marché. Donc c'est un peu les deux options, j'allais dire, qui s'offrent aujourd'hui du côté de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que ça change, l'idée de cette baisse de taux? Enfin, plus que l'idée, elle sera là la semaine prochaine, la baisse de taux en zone euro. S'il y en a une, il y en a deux, comme je dis souvent. S'il y en a deux, il y en aura peut-être même une troisième cette année, et d'autres à suivre en 2025. Hein. Évidemment, tout ne s'arrête pas au 31 décembre, Bertrand. C'est déjà complètement intégré par les marchés. C'est des baisses de taux qui vont quand même aussi produire des effets qu'on n'a peut-être pas encore vu en termes de flux d'investissement, en termes de rotation sectorielle, pourquoi pas ?
Rotation sectorielle, objectivement, on n'a rien dans le pipe. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est sur le coin du feu, en train de se préparer. Enfin, en tous les cas, ouais. On est... les secteurs qui pourraient en profiter, l'immobilier, on voit que c'est compliqué. Donc ça reste des tentatives de sortie pour l'instant. Il y a un ou deux dossiers qui sont sortis, mais pas tous. Ça peut aider. Donc ça, il faut surveiller, parce que forcément, ça fait partie des secteurs qui peuvent en profiter.
Très sensible, ouais.
Sur les services aux collectivités, là, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Il faut se préparer. Et ce qu'on lit beaucoup de la part de stratégistes, économistes, analystes, c'est que la baisse de taux pourrait être un déclencheur pour les petites et moyennes valeurs. Parce que là, pour le coup, on commence à voir... Alors, en France, c'est un peu spécial, mais il faut le noter quand même, on a un indice mid and small qui fait mieux que le CAC.
Oui.
Donc, c'est nouveau, et vu que ça fait 4 ans qu'on l'attend, on peut quand même le signaler.
Ouais. Mais plus que ça, mais bien sûr.
Donc, ça.
Et pourquoi c'est particulier en France? Parce qu'on expliquait, le CAC 40 a été peut-être un peu plus pénalisé que d'autres indices en Europe, avec le poids du luxe, et il y a des histoires spécifiques, voilà, d'accord.
Qu'on ne retrouve pas quand ils sont moins pondérés dans les autres indices, le signal est moins franc. Donc là, on est quand même en train de venir toucher des 200 baissières, donc il y a une normalisation qui est quand même très avancée. Est-ce que la baisse des taux peut aider? En tous les cas, c'est un déclencheur qui est unanimement décrit par tous ceux qui travaillent le segment.
Le segment,
donc, ouais. À voir, à suivre. On en parlait tout à l'heure, la participation est beaucoup plus large.
Ouais.
Donc, on a eu des rallyes de contre-tendance dans un marché qui était plutôt baissier sur les mid and small, des marchés de contre-tendance, mais en fait qui étaient tirés par exemple par le secteur des énergies renouvelables, voilà, mais sur le reste, ça ne participait pas. Là, pour le coup, avec une participation à 55%, on voit des histoires partout, et c'est vraiment des sociétés qui arrivent à se démarquer dans leur secteur, qui font mieux que les copains, et donc qui arrivent à faire des performances de 20, 30, 40% depuis le début de l'année. Et ça, on commence à en voir arriver beaucoup plus, et avec véritablement des investisseurs qui sont longs, parce que c'est des mouvements qui tiennent, s'inscrivent graduellement sur un mois, deux mois, trois mois. Donc c'est pas des feux de paille, et il peut y avoir de temps en temps une envolée, mais globalement, c'est plutôt bien construit, et avec de la collecte qui arrive, alors tout doucement, mais qui arrive quand même, et ça aussi, c'est un changement.
C'est nouveau, ça.
À voir, il y a tellement de monde qui l'a mis comme étant le truc de l'année qu'il faudrait avoir.
L'éléphant dans la pièce.
Potentiellement, il peut y avoir des capitaux qui viennent, et sur un marché qui, somme toute, n'est pas énorme, les volumes vont créer de la performance. Donc, il faut l'avoir en tête, et si c'est ça qui se passe, ça peut être un petit peu ébouriffant.
Ouais.
Ça peut monter très vite, très fort, mais il y a du potentiel, puisque on voit que le private equity vient faire ses emplettes dans le marché coté.
Bah, bien sûr.
Parce que souvent, c'est moins cher que dans le non coté.
Oui.
Et met des primes.
Il y a une décote de liquidité. Il faut comprendre. Hein. Enfin, ça fait des années déjà que ça dure, mais il y a une prime d'illiquidité à ne pas être cotée. Il y a une décote de liquidité aujourd'hui à être cotée pour des dossiers comparables.
Il y a pas mal de dossiers. Alors, soit le private equity vient, prend une place au capital, voire aide les familles à sortir de la cote, avec des primes qui vont de 20 à 40%.
Ouais.
Donc, ça démontre bien que à la fois l'industriel, à la fois un private equity, enfin des acteurs hors le small capper que je suis, qui forcément est biaisé, Mais voilà, quand on dit il y a des poches de valorisation qui ne sont pas exploitées, bah, regardez, les autres les exploitent. Donc, il y a de la place. Donc,
Oui. Bah, l'exemple du moment, c'est Neoen. Je veux dire qu'on élabore un peu sur Neoen. Bon, réussite spectaculaire. Hommage à Jacques Vera qui a construit, bâti toute la croissance de cette entreprise. Bravo à Brookfield également, qui offre d'ailleurs quand même de beaux multiples. Hein. Ça paye 18 fois les EBITDA. On sort quasiment l'action à 40 euros. Alors, évidemment, il y avait eu le moment un peu bullesque, etc., où on avait plus, mais 40 euros pour l'action Neoen. Même, j'ai discuté avec des gérants spécialistes du secteur, n'avaient pas tout à fait ce prix cible en objectif dans leur portefeuille. Donc, c'est un beau prix pour tout le monde. Et j'ai toujours un peu, ben, comme vous peut-être, Bertrand, ce sentiment un peu mitigé. Je suis content de voir la valeur créée. Et en même temps, je me dis, ben, c'est une histoire boursière qui aura duré que 6 ans à Paris.
Alors, heureusement, la cote est large sur les énergies renouvelables. Donc, il y a d'autres dossiers. Mais alors, ça a aidé à faire repartir un peu. Mais pour autant, ce secteur-là, enfin, ce segment-là, c'est pas la fête. Hein.
Ah non, bah ça, c'est des valeurs qui se sont fait massacrer, voilà, effectivement, avec la hausse des taux. Hein, là, bah, bien sûr.
Voilà, sur des sociétés où il y a une intensité, une consommation du capital qui est importante, le fait que demain, les taux baissent, alors les courts, mais il faudra aussi que les longs baissent. Ça peut aider à redonner de meilleurs multiples.
Donc, là, Neoen était au bord de refaire encore une augmentation de capital, je crois. Hein. Donc, c'était permanence à la chasse au cash, quoi. Enfin, au capital, en tout cas.
Ça, c'est un segment qui peut effectivement être aidé par par de baisses de taux. Donc, on va surveiller ça. Mais en tous les cas, oui, c'est la première fois, on peut le dire, participation qui augmente. Et là, pour le coup, ça fait du bien parce que manifestement, il semblerait que les intérêts ne soit plus juste l'apanage de quelques small capers, mais qu'on voit arriver des gérants qui avaient raison d'ailleurs, qui étaient restés sur les grandes capitalisations, venir commencer à faire leur marché sur le segment des mid and small.
Alexandre, sur le thème small et mid cap, alors il y a l'Europe, l'histoire est peut-être différente aux États-Unis quand on regarde le Russell 2000. Hein, on parlait effectivement des schémas de marché un peu différents entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui. Et puis je veux bien qu'on élabore sur Neoen. Ouais, et puis le thème du renouvelable, est-ce que c'est le début d'un retour, enfin une opération qui marque le retour quand même de ce thème-là, peut-être avec un peu plus de faveur en bourse.
Ouais, mais sur la partie déjà américaine, c'est vrai que les small étaient déjà repartis dès le mois d'octobre. Alors même qu'il y avait une situation graphique déjà qui était des années-lumière de ce qu'on voyait sur les large caps. Et le seul fait d'avoir des... alors, c'est pas le seul fait, mais il y avait des stats, si vous vous souvenez, à l'époque, quelques stats américaines qui montraient déjà... Ça très renforçant, c'était en janvier, février, mars. Mais entre octobre et décembre, là aussi, un flux de stats à US un peu moins fort que celle qu'on est pendant l'été. On était à des 5% de croissance au 3e.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et je me souviens que les stats qui tombaient à ce moment-là étaient un peu en dessous. Puis quelques speakers de la Fed qui changeaient un poil leur discours. On avait l'inflation aussi en 2023. Il y avait des vrais paliers à la baisse d'inflation. C'est même palier que cite Powell dans ses conférences de presse. Il dit j'aimerais revoir.
Ce qu'on a vu pendant 6 mois, oui.
Voilà. Il y avait des sacrés paliers, des mois 3-0-4, enfin d'un mois à l'autre. Donc après, là, on est le PC. On a fait 0,4% de mieux en 6 mois. Donc ça, à l'époque, ça avait beaucoup compté pour les small parce que ça y est, on s'est dit, un peu trop en avance, la Fed va beaucoup baisser, enfin, va bien baisser ses taux. Mais sauf que ce qui est intéressant de voir, c'est que le gain réalisé par le Russell n'a pas été rendu quand les taux US sont largement redressés derrière. C'est-à-dire qu'on a plafonné un peu sur le rebond, mais déjà l'indice, d'un point de vue, et Bertrand peut être un peu de choses graphiques, mais l'indice graphiquement, le bottom est très large. Ça, c'est un signe qui est plutôt encourageant quand vous avez pris un truc en V, qui est déjà un bottom intéressant, mais quand ça se fait sur le temps, comme ça, où l'indice a sous-performé par rapport au large, et que vous avez des thèmes comme ça qui se réveillent en plus d'aspect macro qui va vers des baisses de taux, je vois aucune raison aujourd'hui d'être vendeur structurellement, fondamentalement, du Russell 2000, si ce n'est des corrections intermédiaires qui viennent taper des petits supports avant de repartir. Donc, pour moi, l'objectif du Russell 2000, c'est de viser le top historique sur un horizon de 12 à 24 mois.
D'accord.
C'est pas demain, mais le thème US, ce sera pas une nouvelle hausse de taux, même si c'est du higher for longer. Le longer, à un moment donné, il va quand même s'arrêter. Et je pense que ça va s'arrêter, effectivement, plutôt S2. Donc, l'horizon est plutôt pas mauvais, je trouve, de ce côté-là. Le seul truc un peu dangereux qui persiste toujours dans cet indice, c'est les banques régionales. C'est-à-dire que vous regardez l'indice US des banques régionales, ils sous-performent quand même pas mal le reste. parce qu'il y a toujours cette crainte que tant que les taux baissent pas, eh bien qu'il y ait des accidents un peu type SVB ou autre. Mais à la fois, ce qui est quand même rassurant, c'est que le mode opératoire de la Fed et des régulateurs nous a montré que sur les quelques cas qu'on a eu, ils avaient appris des leçons de la crise subprime. Donc tout de suite, l'incendie est éteint, le truc est liquidé, les actifs sont rachetés, etc. Ça va très vite. Donc ça laisse quand même une porte d'embellie de ce côté-là. Et après, sur effectivement le thème des renouvelables, c'est un thème qu'on avait dans le viseur il y a à peu près 2 mois de ça. On voyait que le sectoriellement, on raclait le fond. C'est-à-dire qu'une fois, il y a eu la bulle post-Covid que tout le monde a connue, la correction de 2022, et la plupart sont repartis, sauf où on était rare secteur, celui-ci. Et à un moment donné, vous avez des valos qui sont tellement ras des pâquerettes. On est même revenu sur des niveaux qui étaient quasiment les plus bas du Covid, en fait.
Bien sûr, c'est complètement fou. Comme si le business était mort, quoi.
Exactement. Ouais. Alors qu'on voit bien qu'à l'échelle européenne, et pas seulement, même aux États-Unis, les budgets, les subventions sont fléchés dans ce secteur-là. Donc, se dire que l'avenir sera fait de ça et
qu'on fera du renouvelable sans les entreprises cotées en bourse sur le renouvelable.
Voilà. Oui, maintenant qu'ils sont la cible d'opérations comme ça, moi je vois effectivement un vrai intérêt pour ça et qui va se poursuivre. Donc les prix sont encore pas trop élevés. Le bottom a commencé à se faire, mais il y a toute la phase de reprise derrière. Je pense qu'il faut y aller. Hein. Alors, si on est investisseur un peu, on ne veut pas faire une boîte en particulier, on prend un tracker et on s'exporte. Mais pour moi, il faut être long sans équivoque là-dessus. Quoi.
Ouais, on a vu des rebonds, effectivement, on évoquait des boîtes solaires. Nextera, je crois que c'est un gros rebond quand même ces dernières semaines sur le marché américain. Dans le thème des opérations sur capital, Bertrand, là aussi le mois de mai, enfin ces dernières semaines, ont vu quand même une fenêtre se rouvrir pour des introductions en bourse en Europe. Alors ça avait commencé par Galderma, peut-être au cours du mois d'avril, mais il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu Planisware dans le secteur des logiciels, d'ailleurs, à Paris, qui s'est plutôt bien déroulé. Est-ce que cette fenêtre de tir, elle reste ouverte? Est-ce que, des opérateurs comme vous, qui avaient aussi pour activité d'accompagner des entreprises vers les marchés, est-ce que vous êtes sollicité pour poser la question?
Oui, peut-être qu'avant juillet, on pourra pas...
Non, mais donc, ça, c'est le secret industriel, mais oui.
De la confidentialité. Il y a des intérêts. Le marché se porte plutôt bien. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que... Alors, il y a des retraits de la côte, certes, mais il y a des augmentations de capital qui ont lieu.
Ah.
Et qui sont souscrites très rapidement. Donc, en fait, les livres sont fermés en 17h30. On fait le tour. 18h30, c'est terminé.
Ah ouais, d'accord.
C'est couvert, largement couvert. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça montre que les investisseurs, il y a de la poudre sèche. Ils sont capables d'aller sur des dossiers. Alors, une augmentation de capital, c'est un peu plus simple parce que vous avez un historique.
Oui.
Vous avez vu la boîte pendant X temps sur les marchés, la communication, une appréciation du management, le business model, la concurrence. Mais... Bon, ça, c'est une première bonne nouvelle. En termes de risque, il faut quand même remettre de la monnaie sur le marché. Ça marche assez vite. Donc, je pense que les prochaines opérations, logiquement, si les valos, des dossiers bien calibrés, des valos qui se tiennent, ça doit pouvoir passer. C'est d'autant plus que, comme on n'en a pas eu depuis un petit moment... Pour un gérant de fonds, c'est compliqué de souscrire à plusieurs introductions en bourse parce que vous partez avec une liquidité que vous ne connaissez pas. Le management, vous le connaissez, vous avez appris à le connaître,
mais
comment il est évalué par la sphère financière quand il y a les trimestriels. Donc il y a pas mal de sujets techniques, par exemple sur les ratios de liquidité. Pendant un moment, vous savez que...
Il n'y aura peut-être pas beaucoup de liquidité.
Donc est-ce que ça va améliorer, diminuer la liquidité du fonds qu'on doit forcément à nos porteurs? Donc il y a des sujets un peu techniques comme ça qui font qu'on ne peut pas en accumuler trop, même si les dossiers sont bons. Donc logiquement, un dossier qui rentre, à mon avis, ça devrait passer. Ouais. Et on a des investisseurs hors France qui s'intéressent à ce qui se passe en France. Donc en fait, sur le segment mid and small, il y a un intérêt. Il y a beaucoup de sociétés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou dans les Nordiques qui ont un marché des mid and small et en fait qui vont faire leur marché hors de leur pays. Ouais. Donc il y a un intérêt.
On a une des plus belles cotes mid and small en Europe et au monde. Hein.
De la même manière que nous, forcément, dans les fonds mid and small, pas nous pour en part, mais globalement, tous les concurrents, on a depuis un moment intégré des mid and small européennes, on commence à voir côté émetteur, côté gérant,
investisseurs.
Des investisseurs qui viennent qui sont capables de mettre des beaux tickets ou même carrément de temps en temps d'être cornerstone, d'assurer que prennent X pourcent.
Ils s'engagent sur effectivement. Donc, cas angulaire, quoi, des investisseurs clés pour les sociétés cotées.
On en a besoin parce que le succès du private equity, franchement, c'est bien parce que on a besoin d'avoir des capitaux pour les augmentations de capital, valoriser les entreprises, mais il faut voir qu'il y a un continuum du financement qui potentiellement à terme risque d'être brisé si la bourse n'attire pas plus, parce qu'à un moment donné le private equity, ça peut être du 5 ans, du 7 ans, mais il faut qu'il sorte. Donc ils ont peut-être un copain en face qui va racheter, mais la logique est de sortir en bourse. Parce qu'au fur et à mesure que la boîte grimpe, les tickets sont de plus en plus importants. Donc ils ont certes les poches profondes, mais à un moment donné, une des sorties, c'est la bourse, et c'est quand même là qu'il y a quand même plus de...
Bien que là, justement, beaucoup, ou certains en tout cas dans l'univers non coté, sont à un moment où il y a quand même des investisseurs de la première heure qui demandent un petit retour de cash après plusieurs années investies à leur côté, et que oui, effectivement, la question de les sorties, elle n'est pas évidente. Donc il y a des fonds secondaires, on fait du buy-out, etc., des fonds de continuation, mais c'est vrai que la question de la sortie, elle devient quand même critique aujourd'hui, quoi. Donc mais j'aime bien l'idée du, comme vous dites, un continuum de financement vertueux. Mmh. Ouais. Si ça vous inspire des commentaires, Alexandre, avec plaisir. J'entendais tout à l'heure, vous disiez la Chine, j'y crois encore.
Ah oui.
Enfin
On y croit là. Pour plusieurs raisons, c'est que le tout ce qui a généré le fait de s'extraire difficilement de cette lourdeur des indices du Hang Seng quand on prend la valeur au côté Hong Kong, c'est justement la Chine a fait des efforts évidents, très visibles, sur tous les thèmes, notamment les thèmes de marché. Plusieurs fois, il y a des communications à l'attention des investisseurs. Elle a même fait venir des investisseurs européens sur le sol chinois, donc aux personnes de communication bien visibles, pour leur dire, regardez, ce qui est vrai, en gros, nos boîtes ne sont pas chères. Les boîtes tech chinoises ou autres, elles ne sont pas très chères d'un point de vue côté en bourse. Attention. Les annonces, une espèce de QE sur l'immobilier, quasiment. C'est-à-dire que les gouvernements locaux ont le droit de racheter des barres d'immeubles, des quartiers entiers qui n'ont pas été vendus pour les vendre moins cher aux Chinois, ce qui rend aussi du pouvoir d'achat aux Chinois, qui les conforte, qui rendent la confiance et du pouvoir d'achat en parallèle. On a vu des indices dans les services, notamment, qui est un bon marqueur sur la consommation en Chine. PMI service, là autant ce matin, le PMI manufacturier, c'est un peu contracté. Ouais. Le service, lui, il reste au-dessus de 50. Des gros financements qui sont à venir d'ici novembre, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans la phase de stress 2021 jusqu'à 2023, quasiment, ça. Donc ça, les indices sont bien aimés, bull market, et là on relâche presque 10% un bon 10% par rapport au sommet, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une respiration avant de repartir, et la respiration elle se fait sur des choses un peu évidentes aussi, qui ne plaisent pas au marché, c'est l'entraînement militaire autour de Taïwan, ça déplaît évidemment, c'est des sujets qui fâchent, et puis cette question un peu de guerre commerciale ou autre, qui va portant encore quelques temps, mais je pense que la Chine et l'Europe ne vont pas rentrer frontalement, c'est-à-dire qu'on comprend tous les risques qu'il y a en face à agir trop rigidement, surtout l'Europe par rapport à sa balance commerciale qui est plus engagée quand même que la partie américaine de ce côté-là. Donc pour moi, il y aura un peu de réel politique qui va s'imposer justement entre l'Europe et la Chine. Je ne vois pas de gros accidents et je pense qu'il y a du potentiel encore sur le Hang Seng. Et on rappelle encore une fois que la tech chinoise, il n'y a pas que ça dans le Hang Seng, il y a autre chose, mais la tech chinoise, elle a subi l'équivalent d'une bulle Internet, le pic 2021. Oui. Et c'était après, un an et demi après, on était à moins 80%. Oui. Donc là, on a repris effectivement plus 30. Je pense qu'il y a un vrai potentiel qui persiste.
C'était devenu deep value.
Deep value, mais le problème de ça, c'est que c'est pour... Il y a des choses qui sont imprévisibles. C'est-à-dire que si c'était des valos comme ça sur l'Europe ou les États-Unis, avec la prévisibilité, même s'il y a des alternances ou autres, mais on aurait moins d'inquiétude à y aller. Alors que là, c'est la Chine. Et c'est toujours ça qui pose un peu problème. Donc certains le font plutôt sous forme de coup. On rentre un peu quand on sent que les nuages se dégagent un peu à horizon 3-4 mois. Et puis dès que ça se recouvre, on sort assez vite. Mais j'ai quand même pas l'impression que la Chine soit prête à refaire ce qu'elle a fait en 2021. C'est-à-dire les confinements, les trucs comme ça, les disparition de PDG, les réglementations durcies du jour au lendemain, ça, elle a expérimenté ça et ça a eu un gros impact sur sa croissance. Pourquoi le referait-elle? Enfin, encore une fois,
parce que c'est la Chine, quoi. Marché, quoi. Parce que c'est la Chine. Non, mais c'est vrai qu'il y a différents horizons de temps. Je crois quand même comprendre que pour beaucoup de gros investisseurs, ça devient compliqué quand même aujourd'hui de remettre des expositions structurelles sur la Chine, mais ça n'enlève rien au fait que boursièrement, il peut y avoir. Est-ce qu'on peut dire un mot d'ailleurs en lien peut-être ou non avec la Chine, du complexe des matières premières, Alexandre? Bon, alors évidemment, il y a eu les précieux, il y a le squeeze sur le cuivre. Moi, je continue un peu bêtement de regarder le pétrole. Oui. Je sais qu'il y a des déterminants spécifiques avec l'OPEP, etc. Que c'est la production, enfin l'approvisionnement du marché est assez contrôlé, verrouillé. Mais bon, pétrole tourne autour de $80, que ce soit le WTI, le Brent, et finalement, j'ai l'impression que ça convient très bien à tout le monde pour l'instant.
Complètement. Même si on prend le cas de l'Europe, le prix du gaz en Europe, on est entre 25 et 30 euros, on monte un peu à 30 euros le mégawattheure, mais c'est pas les 300 euros du post-Ukraine. Et pré-Covid, on était dans ces mêmes zones de 20 à 30 euros le mégawattheure. Donc c'est compatible avec une activité industrielle sur le sol européen. Le pétrole, vous l'avez dit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il est dans un prix totalement moyen, normaux, compatible aussi avec la croissance. Il y a des thèmes, effectivement, mais qui étaient risk-on, c'est-à-dire les métaux qui repartent depuis deux trimestres maintenant assez vigoureusement. C'était le cuir, c'est l'aluminium, c'est des métaux industriels. Évidemment, on regarde du côté de la Chine, et c'est pour ça que les investissements ont rebondi. C'était plutôt vertueux, c'est-à-dire qu'en gros, c'était des bons signaux par rapport à la Chine qui venait à rassurer. Le seul truc, mais je ne mets pas une grosse pièce là-dessus en termes de risque, c'est qu'à un moment donné, on a des matières premières assez clés pour l'industrie qui ont un peu augmenté, et le prix du transport aussi, mondial, ouais. 40% en un mois. Ça s'est un peu détendu, il y a eu le pic mer rouge, premier pic, ça s'est redétendu vers 2400 le container, et là, on est reparti à des 3006, 3007, c'est plus 40% en un mois. À un moment donné, encore une fois, je ne crois pas du tout qu'il y ait l'impact de 2021 où là, ça avait x10. Et là, il y avait un vrai effet inflationniste. Simplement, il faut quand même regarder que l'inflation, dans sa structure baissière, c'est surtout les biens, l'énergie.
Ah bah oui, bien sûr.
Et si on commence à avoir des choses un peu de base comme ça, qui partent un petit peu, si ça dure 6 mois ou 12 mois, eh bien, c'est-à-dire que là, l'amélioration par les biens ne sera plus là, que ça va recontribuer un peu positivement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est impératif que les services refroidissent pour,
si justement, le plat... Tout est autour des services aujourd'hui. Les biens non énergétiques, industriels, etc., l'alimentation, enfin tout ça sur les grands indices agrégés d'inflation est revenu à zéro quoi. Enfin voilà,
c'est un truc à surveiller. Il y a un autre sujet aussi, genre ça n'a rien à voir avec le truc, mais c'est je pense qu'il faut toujours être au-dessus sur l'Europe, le cas qu'on regarde d'autres, mais des indices, je pense qu'il y a encore du vrai gros potentiel, c'est le MIB, MIB italien, l'IBEX aussi en Espagne. Regardez les spreads de taux 11 euros, 130 points de
base. Ah oui, Allemagne, c'est oui, je regardais tout à l'heure.
Les valos, on est encore à peu près 10 fois les bénéfices sur un MIB. Alors, on va pas le dire que ça a toujours été moins cher que le CAC ou autre, mais même graphiquement, on sort pour l'indice hors dividende d'un bottom qui s'est fait sur plus de 10 ans. On était déjà très long là-dessus, déjà l'année dernière. Et je pense qu'après la phase qu'on a depuis de quelques mois un peu latérale, il faut laisser cette digestion se faire. Mais je pense qu'il y a vraiment encore du 20-30% derrière dans les 12 mois qui arrivent.
Pour conclure avec vous, Bertrand, là, sur le mois de juin qui s'ouvre, quelle est un peu la ligne de conduite pour conduire justement les investissements là, sur les marchés que vous avez en tête?
Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aux États-Unis, il y a quelques dossiers qui marchent bien, mais se positionner sur un tracker,
l'indice,
ça marche,
ça fait le job,
parce que c'est vrai que bon, on a quand même donc cette participation assez faible, et puis vous avez décrit les phénomènes avec quand ça va mal, notamment sur la tech, c'est du moins 20, ça peut être compliqué à gérer, et si vous avez oublié que les résultats c'est le soir, enfin je veux dire le lendemain c'est trop tard, soit vous avez du temps y consacrer, auquel cas il y a des belles histoires, sinon, et par contre en Europe on a une prime au stock picking. Donc il y a plein de belles histoires dans différents secteurs. On parlait des bancaires, effectivement, les bancaires en Italie, en Espagne. On voit bien que c'est l'Europe qui marche très bien. UniCredit, je crois, on doit être à plus de 80% de performance
depuis le début
de l'année.
Quasiment doublé.
80% de performance
doublé.
Sur une banque, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu.
Bah oui. Donc, on a aussi nos fusées, oui.
Donc, voilà, juste
et ça reste pas cher.
Et on en parle moins que des Novo Nordisk ou des
le secteur leader en zone euro, en Europe, ça reste les banques, ça a déjà très bien fait en 2023, et c'est surtout un secteur, en termes de force relative, qui n'a rien perdu ces derniers mois.
Ça reste bien de ce point de vue-là.
Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été en plateau avec nous pour ce bilan du mois de mai dans Smart Bourse. Bertrand Lamiel, le directeur général de Ports & Parts Gestion, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.